les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, proclame le premier article de la Déclaration, qui en 30 points énumère des droits humains, civils, économiques, sociaux ou encore culturels, des droits inaliénables et indivisibles. Ce sont les atrocités de la Seconde Guerre mondiale et la barbarie nazie qui inciteront les Nations Unies à créer la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais 60 ans plus tard, ce texte est-il toujours considéré comme une référence? Ses fondements sont-ils en danger? La Déclaration des droits de l'homme mérite-t-elle une actualisation? C'est un spécialiste des droits de l'homme qui nous répond. Il est secrétaire d'État aux affaires multilatérales et aux droits de l'homme au ministère des Affaires étrangères du Mexique, Juan Manuel Gomez Robledo.
Il est évident qu'à l'heure actuelle, nous assistons à une certaine remise en cause de ces droits pour de nombreuses raisons et de nombreux facteurs, mais il y a une remise en cause d'un certain nombre de ces droits et des fondements même de la démocratie, ce qui nous inquiète. Alors ces 60 ans sont donc l'occasion de réaffirmer notre attachement au noyau dur des droits de l'homme.
Certains éléments sont concrètement menacés par quoi? Comment?
Ne serait-ce qu'en raison de l'importance qu'a pris la lutte contre le terrorisme. La lutte contre le terrorisme, qui est parfaitement légitime, se fait néanmoins de la part de certains pays dans une perspective qui n'est pas celle du plein respect des droits de l'homme. Donc les deux ne sont pas incompatibles, mais il est évident qu'au cours de ces dernières années, il y a eu des atteintes, par exemple dans la remise en question de la prohibition totale de la torture. On a eu recours de nouveau à une réinterprétation des conventions de Genève en ce qui concerne la torture. Je pense que c'est un exemple très clair, mais également dans d'autres régions, sous prétexte de respect de la diversité culturelle et de la diversité religieuse, on met en question un certain nombre de droits fondamentaux comme tout ce qui a trait aux droits des femmes. Et c'est évident qu'il y a, comme d'aucuns le prédisaient, un conflit croissant entre plusieurs conceptions de la civilisation mondiale. Donc il faut de nouveau remettre l'accent sur l'universalité de ces valeurs, quelle que soit la diversité culturelle, quels que soient les niveaux de développement.
Alors justement, je rebondis là-dessus, certains pays se cachent un peu derrière leur culture, c'est exactement ce que vous venez de dire, pour échapper à certaines règles fondamentales des droits de l'homme. Est-ce que cette déclaration finalement est vraiment universelle ou est-ce qu'elle est purement occidentale?
Vous mettez vraiment l'accent sur une question vraiment très épineuse parce que, en effet, en 1948, tout le bloc socialiste s'est opposé à cette déclaration parce qu'elle ne mettait pas assez en valeur, à ses yeux, les droits économiques, sociaux et culturels. Je pense que néanmoins, au cours de ces années, on a quand même adopté un certain nombre de normes qui donnent également aux droits économiques, sociaux et culturels la part qui leur revient, y compris le droit au développement. Il y a de plus en plus une acceptation de l'universalité de ces valeurs, et la meilleure preuve à mes yeux est le fait que les systèmes régionaux des droits de l'homme se développent et s'affermissent. Le premier système régional de protection des droits de l'homme est bien sûr le système européen à travers la Cour européenne des droits de l'homme, mais en 1969, dans ma région, nous avons mis en place le système interaméricain des droits de l'homme, et les Africains viennent de se doter également d'un système régional des droits de l'homme, et les pays du sud-est asiatique sont en train d'essayer de faire la même chose. Donc tout cela est la preuve qu'il y a une acceptation universelle et que les particularités culturelles ne sont d'aucune façon un prétexte pour empêcher une évolution dans la direction de l'universalité des droits de l'homme.
Comment jugeriez-vous, comment peut-on juger l'action du Saint-Siège dans la défense de cette déclaration ces 60 dernières années?
Je pense que le Saint-Siège a toujours une position très forte dans tous ces sujets-là. Il n'est pas un domaine de l'action des Nations Unies qui porte sur les aspects fondamentaux de la vie de l'homme où le Saint-Siège soit absent. Au contraire, le Saint-Siège est toujours très présent. Nous avons travaillé également de manière très étroite avec la délégation du Saint-Siège à New York sur les droits des personnes handicapées. Nous espérons que le Saint-Siège ratifiera bientôt cette convention, qui est une convention vraiment qui a mis l'accent sur un groupe qui était oublié de la communauté internationale, qui était traité sous une perspective médicale exclusivement et pas sous la perspective des droits de l'homme. Non, je peux vous dire que nous admirons et nous respectons et nous soutenons le rôle du Saint-Siège dans tous les domaines dans lesquels le Saint-Siège travaille de façon très ferme. Son action va bien au-delà des thèmes sociaux, si je puis dire, parce que le Saint-Siège a également des positions très fortes en matière de désarmement, lutte contre la prolifération nucléaire, etc.
Alors, dans son discours à l'ONU en avril dernier, Benoît XVI a, on va dire, majoritairement parlé des droits de l'homme et a parlé d'une sorte de devoir d'ingérence auprès des nations qui s'égareraient en termes du respect de ces droits. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de cette notion de devoir d'ingérence ?
Le terme est peut-être mal choisi et c'est pour ça que nous avons beaucoup travaillé avec nos partenaires pour que le libellé soit changé et c'est pourquoi depuis 2005, nous préférons parler de la responsabilité de protéger. Et cette responsabilité de protéger qui reprend l'essence du droit d'ingérence a été consacrée dans la déclaration du sommet des chefs d'État de 2005. Cela dit, encore une fois, c'est un problème de mise en œuvre. La norme est là, mais la mise en œuvre fait défaut. Depuis 2005, il est évident qu'il y a eu de nombreux scénarios dans lesquels on aurait pu invoquer ce droit de faire respecter les droits fondamentaux de la personne lorsque le régime en place ne veut pas ou n'est pas capable de venir en aide à la population. Il y a tout un devoir de développement du droit international et de codification de la pratique du Conseil de sécurité qui doit se faire.